Bonjour et bienvenue dans l'émission Ma commune est utile. Donc, je me représente Gérard Queval. Je vais animer cette émission avec à mes côtés Alain Castan, président de l'Association des maires ruraux de la Dordogne, et Brigitte Cabirol, maire de Saint-Barthélemy. Bonjour chers auditeurs, bonjour, bonjour Alain.
Bonjour.
Juste un petit mot, on va excuser Brigitte qui subit une petite opération, j'espère que ça va bien se passer.
Oui.
Toutes nos pensées sont à elle et puis on espère qu'on va pouvoir la retrouver sur la prochaine émission.
Rapidement, elle nous manque.
Donc on va commencer cette émission par parler de deux événements qui sont passés pour l'Association des maires ruraux. Son congrès national et l'Assemblée générale qui a eu lieu à Saint-Brieuc le mois dernier.
Donc, alors, Alain. Bien sûr, donc le congrès national qui s'est passé à Villevallier, dans l'Yonne, un petit village de 500 habitants. Donc vous voyez que la ruralité, c'est vraiment les petits villages. C'était très 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 bien organisé. Nous avons eu la visite de 6 ministres et puis bien sûr du Premier ministre. Alors que dire de ces rencontres. Alors, forcément, entre nous, entre maires ruraux, on a abordé les choses vraies. On a beaucoup parlé de sujets qui nous préoccupent. Et c'est vrai qu'on a été un peu déçus des propos du Premier ministre qui est arrivé avec rien dans ses sabots, comme on pourrait dire, puisqu'on est en période du Père Noël, et qui nous a vraiment déçus parce qu'on pensait qu'il y aurait quelques avancées sur la ruralité, au moins sur l'agenda rural, et il n'y a rien eu. Voilà.
Il est arrivé avec le Covid, non ?
Il n'est pas arrivé avec le Covid, il est arrivé, comme je dis, avec un panier vide. Donc voilà, ce n'est pas très intéressant, surtout que le dernier où l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, était venu avec le choix de l'agenda rural qu'il voulait mettre en place. Aujourd'hui, quelques points de l'agenda rural ont été mis en place, mais sur les 83 que nous avions proposés, il en manque.
Donc on va parler peut-être plus concrètement de ce qui s'est passé à l'Assemblée générale en Dordogne.
Alors on va revenir en Dordogne, bien sûr. C'est au plus près de nous, c'est au plus près de vous, les auditeurs, c'est au plus près de vous, les élus, c'est au plus près de vous, les périgordins ou gourdins, comme on veut, si peu qu'ils habitent le Périgord ou si peu qu'ils habitent Périgueux. Donc, notre assemblée générale a eu lieu avec une assemblée assez bonne dans l'ensemble, à Saint-Brieuc, sur la commune nouvelle de Val-de-Louyre et Caudeau. Et c'est vrai que quelque part, on était ravis parce que notre président Michel Fournier, notre président national, était présent. Il a fait une forte impression auprès des élus. D'abord, d'une part, sa convivialité, sa jovialité, mais surtout par les propos qu'il a tenus, des propos qui étaient sans langue de bois. Et certains parlementaires qui étaient là ont été obligés, des fois, de se cacher derrière le revers de leur veste tellement il leur a parlé vrai.
Donc il faut rappeler qu'à cette Assemblée générale, donc, il y avait le sénateur M. Mérilloux,
oui,
et le député
Jean-Pierre Cuvertafont. Alors, c'était pas les plus mauvais, c'était certainement même les meilleurs, puisque tous les deux ont été maires, des maires ruraux. Ils savent ce que c'est que la ruralité. Ils y travaillent dessus, mais bon, c'est vrai qu'ils en ont peut-être pris un peu pour leur grade, parce qu'ils représentent quand même le Sénat, et que la grosse majorité du Sénat ou de l'Assemblée nationale, les maires ruraux, nous n'en sommes pas très très heureux et très contents. Alors, ce qu'on leur a demandé surtout, c'est de relayer nos propos auprès de leurs collègues.
Donc, à cette Assemblée générale, si mes souvenirs sont bons, donc, le député Cuvertafont a présenté un certain nombre de points, puisqu'il a été désigné par le gouvernement pour faire un rapport sur la ruralité, c'est ça ?
Ben oui, il a été désigné par le Premier ministre pour parler sur des mesures pour renouveler l'action publique dans les territoires ruraux. Ça a bien son titre. Alors c'est vrai que Jean-Pierre Cuvertafont a fait un énorme travail. Il a rencontré énormément de personnes, dont ma propre personne en tant que président des maires ruraux, et je l'en remercie. Et il a proposé derrière 70 mesures qu'il a remis au Premier ministre pour renouveler cette action publique dans les territoires ruraux. Alors bien sûr, je vais pas vous raconter les 70 mesures, mais il y en a quand même quelques-unes intéressantes. Je vais prendre par exemple la mesure numéro 3, c'est d'intégrer un volet ruralité dans les études d'impact de tout projet de texte législatif et réglementaire. Ça, c'est assez nouveau. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la loi NOTRe ne parlait que des métropoles et des grandes villes. Aujourd'hui, avec cette intégration de volets ruralité, on pourra parler au moins des communes rurales.
En annexe, peut-être, mais bon, c'est déjà un premier point. Si on commence à parler un peu de ruralité, ça change des métropoles.
Mais c'est le rôle du président de la République. Je pense qu'il a... Il reste sensible aux aides qu'on lui a apportées par rapport au cahier de doléances. Et c'est vrai que quelque part... Comme je le dis toujours, même si on n'est pas, si on est des maires comme le sont les maires qui sont affiliés à l'Association des maires de France, eux c'est plutôt, ils sont dans la généralité, nous on est plutôt dans la spécialité. Et ça c'est une mesure qui va plutôt dans la spécialité, voilà. Donc c'est important. Sur d'autres mesures, il parle beaucoup aussi des problèmes de santé, donc... Il propose la création de centres de soins dans la ruralité qui seraient rattachés aux centres hospitaliers les plus proches. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse, bien sûr. Il propose de renforcer des obligations de stage en milieu rural dans les différentes branches de la médecine. Ça voudrait dire qu'on pourrait avoir des internes qui viendraient travailler dans la ruralité. Alors, bien sûr, ce n'est pas la finalité du fait de ce qu'on veut, nous, c'est-à-dire amener des médecins à la ruralité. Mais... je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes dans ce qu'il propose. Et c'est vrai que quelque part, on a besoin, parce que la santé, c'est une priorité pour les Français. Et c'est vrai que quelque part, il en parle et c'est une bonne chose.
C'est vrai que cet aspect-là de faire venir des internes, je trouve que c'est une mesure intéressante, parce que beaucoup sont dans les grandes villes, ils ne connaissent pas nos campagnes. Et leur faire découvrir les campagnes, je pense que ça peut-être en inciter quelques-uns à y rester. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages d'être à la campagne. On l'a vu avec le Covid, de nombre de citadins qui reviennent dans nos campagnes. Et je pense que là, on a une carte à jouer et qui peut être intéressante pour la ruralité.
C'est une très, très grosse carte parce qu'aujourd'hui, les médecins quand même se rendent compte que... Beaucoup d'efforts ont été faits dans la ruralité, particulièrement dans les villes, dans les villes moyennes et les petites villes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup plus d'accès au sport, ils ont beaucoup plus d'accès à la culture, ils ont beaucoup plus accès à d'autres formations ou à des formations plus proches qui sont pas loin de là où ils peuvent exercer. Mais c'est vrai que quelque part, ils retrouvent ce qu'ils n'ont pas dans la métropole. Ils retrouvent une liberté, entre parenthèses, une liberté écologique qui est bien meilleure. C'est-à-dire qu'ils sont à la campagne, ils sont à...
Il y a un cadre de vie, oui.
C'est un petit peu, c'est la grosse différence. Au lieu de se promener sur des trottoirs qui sentent mauvais, ils se promènent en pleine campagne en regardant les oiseaux et puis les feuilles. Mmh. Donc c'est totalement différent, quoi.
Ouais. Quoi qu'on ne peut pas dire, hein. Une étable pas bien loin, ce n'est pas des bonnes odeurs non plus.
C'est vrai, c'est vrai aussi, mais bon, restons poètes.
Et y a-t-il d'autres points que M. Cuperdafoy a présenté dans son...
Il y a plein de choses, mais bon, il y a une chose, moi, que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il n'aborde pas le problème des pouvoirs dans les EPCI, et c'est vrai que depuis longtemps, moi, je me bats pour que les maires des villes-centres n'aient pas tous les pouvoirs. Je l'ai déjà dit lors d'une émission, aujourd'hui on se rend compte que dans les établissements publics d'intérêt intercommunal, on se rend bien compte que lorsque le maire de la ville-centre est le président en même temps de l'intercommunalité, il y a pratiquement une grosse majorité des investissements qui partent pour la ville-centre. Ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça et il faut... penser maintenant territoire, il faut arrêter de penser population. Voilà, ça c'est très important. Et je pense, dans ces mesures, il en parle. Il en parle pas assez, mais il en parle.
Ce qui était intéressant dans cette Assemblée Générale, c'est que vous aviez invité un représentant d'Orange. Je crois qu'il a pris pour son grade.
Il est venu avec un casque.
Mais ce qui était intéressant, c'est l'intervention d'un des maires qui a une petite entreprise et... on est un petit peu tombé sur les fesses, pour être poli, quand il nous a annoncé les prix de ses abonnements pour avoir la fibre.
Ah ben, c'est pas difficile. Cette entreprise qui possède aujourd'hui 12 employés, qui est dans la périphérie de Bergerac, on lui propose un abonnement fibre de 1200 euros, 1200 euros par mois pour pouvoir se brancher la fibre. Mmh. C'est insupportable. Sachant qu'aujourd'hui, la moyenne des branchements fibre pour un habitant classique, elle est de l'ordre de, je vais prendre une grande marge, entre 10 et 20 euros, et qu'alors les entreprises, elles dépassent rarement 500 euros, mais bon, on a quelques exemples en Dordogne, par exemple le Golfe des Vigiers aussi, où les prix sont prohibitifs, ça veut dire que dedans, ils y incluent les coûts d'investissement, c'est pas normal. Mmh. C'est pas normal, sachant en plus que Orange est tenu par la loi de fibrer les zones AMI, c'est-à-dire les villes, il y a Bergerac et Périgueux, et qu'aujourd'hui ils ont du retard, et se permettre de demander un abonnement d'une telle sorte à une entreprise, c'est quand même scandaleux.
Et ce qui représente pas qu'un SMIC par mois, quoi.
Pratiquement.
Un emploi, ça fait...
Pratiquement, je pense que le chef d'entreprise, il préfère le mettre ailleurs, mettre dans un abonnement fibre, oui. Malgré qu'il ait besoin absolument de la fibre.
D'autres petits points par rapport à cette Assemblée Générale qui était intéressante, qu'est-ce que tu en as ressorti, toi, en tant que président
Ah ben moi, j'étais très heureux d'abord d'avoir du monde. On a pu parler et aborder les sujets vraiment qui touchent la ruralité. On a parlé... Donc, je vais en parler de suite. Le président l'a mis dans son édito. On a parlé d'énergie, bien sûr, et c'est vrai qu'il s'est un peu moqué du gouvernement par rapport à la réponse qu'il a donnée sur le chèque de 100 euros pour 38 millions de Français. C'est vrai que 100 euros, quand on regarde aujourd'hui le prix de l'électricité, on se pose des questions. Et je pense, justement, Gérard, qui est toi un ancien d'EDF, j'ai vu les résultats des élections du comité d'entreprise, je crois que ça s'appelle la CMCAS, c'est bien ça, ou la CCAS au niveau local.
National.
National, voilà, c'est ça. Donc quand je vois que le syndicat majoritaire, la CGT, se renforce, quand je vois que 60, plus de 50% des électriciens et gaziers ont été votés...
59%.
Tu vois, là tu vas rectifier ce que j'ai dit, c'est encore meilleur. Donc 59% des gens de l'entreprise sont allés voter. On voit qu'il y a un autre intérêt de défense de cette entreprise par rapport aux gens aux peu de gens qui vont voter dans les urnes quand nous, les élus, on se présente. Et ça, moi, je les félicite et je suis très heureux du résultat que j'ai constaté.
Et le résultat sur la Dordogne est quand même significatif.
Alors tu vas me le dire, c'est le résultat.
C'est presque 80% de participation, c'est ce qui est formidable. C'est-à-dire qu'on voit que les gens et même les retraités de l'EDF sont concernés par l'avenir de leur entreprise. Et la CGT arrive avec 69%. C'est-à-dire plus il y a de participation, plus la CGT se renforce, d'une certaine manière.
Mais ça prouve qu'on est dans le territoire de la Jacquerie. Donc je vois que même à EDF, il y a beaucoup de Jacques le Croquant. Quoi. C'est une bonne chose. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le résultat. Ce qui est important, c'est que... Il y a encore des choses à faire.
Oui,
tout n'est pas perdu. Et moi, je vois qu'à travers toutes les luttes qui puissent exister dans n'importe quelle entreprise, mais aussi dans n'importe quelle mairie, dans n'importe quelle école, chez le citoyen, il faut savoir dire non. Et je pense que tes collègues ont su dire à leur direction, non, ça suffit. Ils nous ont présenté, nous les élus, on nous a présenté au niveau du syndicat des énergies un projet qu'ils appelaient Hercule. Mais Hercule, il n'a pas fait le poids, quoi. Il ne fait pas le poids, Hercule.
Hercule, bon, on le voit, il a été refusé par la majorité des maires de la Dordogne. Et par les salariés, parce que derrière, c'est la mise en cause du service public de l'énergie, la fin de la péréquation tarifaire, parce que là, on peut y revenir. Si les gens ont subi les augmentations de l'électricité, du gaz et de l'essence... Mais bon, c'est pas fini. Et si ces mesures avaient été mises en place, je pense que j'aurais eu encore plus de surprises chez les gens par des augmentations encore plus importantes et un service non pas rendu.
Non, et puis ce qui est important aussi, nous, en tant qu'élus, ce qu'on doit dire, c'est que il faut passer... Le changement, il se fait que par la démocratie. Il se fait pas par des extrêmes. Il se fait pas avec des gens qui arrivent là comme un cheveu sur la soupe, avec aucun programme, et qui disent qu'ils veulent sauver la France. La France, on la sauve collectivement. On la sauve pas avec un bonhomme. C'est pas possible. Et donc, quelque part, je crois que quand on sait se rassembler, quelle que soit l'étiquette politique, qu'elle soit à droite ou à gauche, mais quand les gens savent se rassembler, et c'est ce qu'on essaie de faire, nous, les maires, c'est de nous rassembler pour obtenir des résultats, et on commence à obtenir des résultats. Et ça, c'est bien.
Donc là, on va faire notre petite pause musicale. D'accord. Et nous allons reprendre après, toujours sur la ruralité et la taxe d'habitation.
Bon sujet.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ses bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau, la campagne les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'instit du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Très belle chanson, les oubliés. Je crois que le gouvernement, pour une fois, ne nous a pas oubliés. Vous savez que le gouvernement avait décidé de supprimer la taxe d'habitation et qu'il compenserait entièrement celle-ci à date de 2019, hein, si mes souvenirs sont bons. C'est-à-dire que les communes qui ont des expansions, elles voient leur taxe diminuer.
Pour les plus défavorisés, mais il reste quand même des gens qui continuent à payer un tiers et deux tiers.
Là, le gouvernement seraient en train de prendre une mesure. Ils n'oublient pas la ruralité dans le sens qu'ils vont leur piquer 21 milliards.
Tu peux... 21,6 milliards. Alors, c'est une députée du Puy-de-Dôme qui a découvert ça. Et aujourd'hui, on se penche, et moi particulièrement, je me penche dessus parce que ça m'inquiète. C'est vrai que quelque part, cette suppression de la taxe d'habitation, c'est 21,6 milliards d'euros de pertes fiscales pour les municipalités, dans un sens. Alors, pas pour tout le monde. C'est-à-dire que dans le cadre de la compensation, il y a des communes qui sont surcompensées et il y a des communes qui sont sous-compensées.
Alors, un petit peu, parce que pour nos auditeurs, ce n'est pas toujours évident. Ça veut dire qu'il y a des communes qui vont toucher un petit peu plus d'argent, d'autres un petit peu moins.
Exactement.
Quels sont les critères, en gros, et rapidement, pour surcompenser ou sous-compenser ?
Les critères, c'est par rapport aux autres taxes. Voilà, donc... Il y a des communes qui ont la compensation des autres taxes, surtout la taxe foncière, qui devait venir compenser. Aujourd'hui, elle est supérieure à la taxe d'habitation. Donc, quand vous avez dans une commune une taxe foncière qui est supérieure à ce que rapportait la taxe d'habitation, on considère que vous êtes, si vous donne la, étant donné que vous le recevez, vous êtes surcompensé. Et cette différence, elle vous est prise, ils ne vous la remettent pas en compensation, et elle va vers des communes qui sont sous-compensées. Or, les communes qui sont, par habitude, les communes qui sont surcompensées, c'est pratiquement les communes rurales, et les communes qui sont sous-compensées, ce sont les villes urbaines. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la différence, le différentiel, il est de 21 milliards. Donc aujourd'hui, on peut considérer que, je vais vous prendre l'exemple de Lyon, sur la sous-compensation, ils vont toucher 9 millions d'euros. Et moi, dans ma commune, j'ai 350 habitants, je suis surcompensé, donc je vais toucher 21 000 euros de moins. Donc, vous voyez, c'est 21 000 euros. C'est comme si je faisais un chèque au maire de Lyon en lui disant « Tiens, te voilà, 21 000 euros de la part de Rouffignac de Sigoulès. » C'est ça, la différence. Et donc, tu t'imagines, Gérard, que c'est quand même... le président de la République au Sénat avait dit qu'il voulait réduire la fracture des territoires. Il est en train de l'accentuer. Donc, nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Et c'est vrai que, quelque part... j'ai été alerté par cette députée du Puy-de-Dôme. Et alors je dois reconnaître que j'en ai parlé avec lui. Il va faire une proposition au Sénat, c'est Serge Mériou. Et ça, je lui suis reconnaissant parce que Serge Mériou, c'est l'ancien maire de Saint-Agne. Et c'est quelqu'un qui connaît la ruralité. Et c'est vrai que lui aussi est scandalisé de cette compensation. Parce que quelque part, au Sénat, quand Emmanuel Macron est venu, il a dit qu'un quinquennat plus tard, enfin, c'est de constater que la force est de constater que l'action en faveur des territoires ruraux est insuffisante. Et même pire, que certaines réformes sont contre-productives et creusent un peu plus le fossé qui sépare les urbains et les ruraux. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le contraire. Donc c'est ça qu'on peut pas admettre. Et où on va revendiquer. Alors j'espère que ça va monter. Je ne sais pas comment ça va. D'ailleurs, Serge Mériou doit me tenir au courant. Par contre, les élus, nous, de la ruralité, on dénonce ces modalités de compensation qui sont imposées aux communes et qui ne tiennent pas leurs promesses. Donc voilà, comme je le dis, en Dordogne, comme dans la plupart des départements ruraux, les montants de la taxe d'habitation, l'excédent collecté par les communes du dit département, elles sont réaffectées à d'autres collectivités, essentiellement urbaines. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, ce sont donc des ressources provenant des communes les moins favorisées, les moins peuplées, qui vont compenser les communes urbaines où la part de taxe d'habitation était plus importante. Donc c'est clair et net. Ça veut dire que c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis surcompensé de 21 000 euros. La ville de Lyon est sous-compensée de 9 millions d'euros. Lyon va toucher 9 millions d'euros. Moi, je vais payer 21 000 euros. Ça veut dire que je vais faire un chèque à la ville de Lyon avec d'autres communes.
Déjà, est-ce que tu peux rappeler, si tu t'en souviens, des chiffres par rapport aux impôts qui sont donnés En comparaison entre une ville urbaine et une commune rurale.
Ah, ça, alors ça c'est pas sur les impôts, c'est sur la DGF, la dotation globale de fonctionnement. Aujourd'hui, on le dit, on se plaint de ça aussi, c'est qu'un rural égale, un urbain est égal à deux ruraux. Aujourd'hui, le maire d'une ville urbaine touche, à quelque chose près, à quelques centimes près, touche 120 euros par habitant, une commune rurale touche 60 euros par habitant. Donc du simple au double. Donc nous, c'est ce qu'on voudrait par rapport à la DGF, c'est réduire cette inégalité. Bien sûr, on n'arrivera jamais à toucher 120 euros comme la grande ville, parce qu'ils estiment que des services, ça veut dire que nous, des services, on n'en a pas besoin. À la campagne, on n'a pas besoin de services, on n'a pas besoin de services publics, on n'a pas besoin de mobilité, on n'a pas besoin de soins, on n'a pas besoin d'infirmières, on n'a pas besoin de médecins. Non, nous, à la campagne, on doit vivre comme du temps de la jacquerie, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire on met les sabots, on va travailler et on rentre, on se couche. C'est pas du tout ça aujourd'hui. La ruralité, ce n'est plus ça. Et donc, quelque part, on a aussi besoin de services, et c'est vrai que pour la mobilité, nous n'en avons qu'une, c'est ce qu'a oublié Madame Hidalgo, c'est que la mobilité, c'est aussi la voiture.
Par rapport au service public, on voit aussi qu'il y a des petits soucis de sécurité avec la gendarmerie. Est-ce que, je crois que tu as rencontré il n'y a pas longtemps le responsable de la gendarmerie départementale. Tu peux nous dire un petit mot par rapport à ça ? Parce qu'il y a pas mal de fermetures de gendarmerie en ce moment.
Alors j'ai rencontré le colonel Potti, qui est le commandant en chef de toute la gendarmerie de toutes les gendarmeries de la Dordogne. Et là, on est sur un vrai dialogue. Et je l'en remercie, le colonel Potti, parce qu'on est sur un vrai dialogue. On va d'ailleurs certainement organiser, j'essaie de le faire avec l'AMF, on va certainement organiser un grand rassemblement des maires pour expliquer sur les nouveaux services de la gendarmerie. Et c'est vrai que quelque part... il s'est quand même rendu compte, le colonel Potti, que la Dordogne n'était pas comme d'autres départements, puisqu'on est le troisième département en superficie. On est avec des foyers qui sont dispersés. Et donc, quelque part, quand il y a une sortie d'un groupe de gendarmes, régulièrement, vérifiez-le, mais c'est vrai que souvent, ils sont maintenant trois, ils ne sont plus deux. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est plus facile à trois. D'abord, une question de sécurité aussi. On est plus fort quand on est trois que deux. Mais c'est surtout par exemple, je vais prendre un exemple simple, sur un accident. Quand le véhicule de gendarmerie arrive, il est sur une route départementale, il y a un gendarme qui va s'occuper de l'accident, il y a un gendarme qui va s'occuper de la circulation pour éviter le suraccident. Quand il n'y en avait qu'un, il fallait s'occuper que d'un côté. Là, il y en a un de chaque côté. Donc le suraccident est évité. Voilà, c'est le genre de choses. En plus, ils ont prévu aussi de faire des tours. Alors c'est très complexe, mais... J'ai passé une matinée avec lui, il m'a tout expliqué. Mais c'est vrai que quelque part, il y a aussi, ils ont une notion aussi, ils sont bien obligés de rentabilité par rapport aux personnes et par rapport aux heures. Parce qu'aujourd'hui, il y avait les termes de sécurité et puis de repos. Aujourd'hui, un gendarme ne peut pas travailler 24 heures sur 24, ça paraît humain quand même, même si à l'époque il le faisait, que ce soit des militaires. Mais aujourd'hui, le système qu'ils font que les gens peuvent et se reposer et travailler. Donc on va dans ce sens. Et puis le dernier point qui est très important, c'est que la MRF a sorti un outil de communication qui est très important, qui s'appelle Panneau Pocket. Et la gendarmerie est rentrée de plein pied dans Panneau Pocket. Et aujourd'hui, chaque habitant, chaque commune qui a sur son iPhone ou sur son smartphone Panneau Pocket peut avoir des indications de la police sur un vol, sur un accident, sur une alerte. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On va travailler vraiment au plus près des gendarmes, puisque, moi je le répète aujourd'hui, si vous regardez un petit peu la géographie du département, il reste deux services publics vraiment de proximité, la mairie et la gendarmerie. Tout le reste, c'est parti à volo. Alors bien sûr, le gouvernement se targue d'avoir fait des magnifiques maisons de services publiques. Ben, elles sont belles, les maisons de services publics, mais comme je le répète souvent, c'est une bouteille à moitié vide ou une bouteille à moitié pleine. Alors, il y en a qui peuvent y retrouver leur compte, mais il y en a beaucoup qui ne le retrouvent pas. Ce n'est pas... Quand vous avez quelqu'un qui vient vous parler, par exemple, des impôts, il ne peut pas répondre quand il y avait une perception avec 6 ou 7 personnes dedans. Ce n'est pas le même service.
Donc on va terminer cette dernière émission de l'année. J'en profite et j'espère que tu te joins à moi pour souhaiter de bonnes fêtes à tous nos auditeurs de fin d'année. Et nous nous retrouverons donc l'année prochaine pour une nouvelle émission.
Alors quand même, je voudrais finir sur une note un peu plus optimiste. Et c'est vrai que quelque part, cette année, les participants de la Dordogne au Congrès national à Villevallier, nous avons réussi, et puis c'est fait, c'est entériné. Le prochain Congrès national des maires ruraux se tiendra en Dordogne pour la première fois. Et certainement, c'est quelque chose d'assez d'unique. Elles se passeront dans la belle Bastide d'Aimé, où mon ami Jérôme Bétail, maire d'Aimé, est ravi. Et c'est vrai que quelque part, amener entre 500 et 1000 maires dans un village, en Dordogne, c'est quelque chose de fort.
Et ça sera le cadre peut-être d'une émission en cours d'année.
Bien sûr.
Faire avec lui.
Bien sûr.
Donc, on vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Merci.
Et à l'année prochaine. Au revoir.